M'entendez? Bien, très bien. Alors le sujet, c'est le chrétien et son argent. Donc ce n'est pas l'argent en général, mais c'est l'argent avec le chrétien ou le chrétien avec son argent. Peut-être me direz-vous, mais moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. La question n'est pas là, que vous en ayez peu ou beaucoup. Vous en avez et Dieu veut nous montrer comment utiliser notre argent. Il y a une belle citation, voilà le bel liasse de billets. Une belle citation de Luther, Martin Luther, le réformateur du XVIe siècle, qui a dit: trois conversions sont nécessaires à l'homme. La conversion du cœur, vous serez d'accord. La conversion de la pensée, hein, on est d'accord là aussi, il faut changer sa façon de penser, ça s'appelle la repentance. Et le troisième, la conversion du porte-monnaie. Alors là, c'est plus compliqué. On est prêt à convertir plein de choses, mais pas forcément son porte-monnaie. Et c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui, quand on est chrétien, on est appelé à être sanctifié dans toute notre vie. Et on sanctifie plein de choses. On enlève des péchés, on enlève des choses. Mais le porte-monnaie, lui, il n'est jamais sanctifié. Il est toujours, c'est moi qui le gère et Dieu n'a rien à dire sur mon porte-monnaie. Et pourtant, Dieu veut aussi convertir notre porte-monnaie. Dans un reportage, il disait qu'en France, c'est le sujet le plus tabou possible, l'argent, plus que la sexualité. Les gens sont prêts à parler de sexualité, de leur sexualité, apparemment partout, mais parler de leur argent, de leur salaire ou de... Alors là, c'est tabou, sujet tabou. Et c'est vrai que c'est le cas également dans les églises en France. On a peur d'aborder ce sujet quand on est pasteur parce qu'on a peur que les gens disent, voilà, tu travailles pour ta paroisse, mais ce n'est pas mon but ni mon cas. Il faut en parler parce qu'il y a des principes bibliques très importants et qui nous serviront toute notre vie. Le but de ce message, c'est que l'on regarde ensemble la volonté de Dieu au sujet de notre argent. Alors, il y a trois principes pour lesquels on doit considérer l'argent, de la façon dont on doit considérer l'argent, le regarder. Et le premier principe, l'argent ne doit pas être un dieu. Alors vous me dites, mais c'est évident, tout ça c'est évident. Sauf que quand on se trouve avec une certaine somme d'argent, il se passe quelque chose d'émotionnel. Je ne sais pas si vous avez déjà tenu un billet de 500 euros dans vos mains. Vaut mieux pas, hein? 500 euros, ça fait 3 000, plus de 3 000 anciens francs, hein, dans la main comme ça, un billet. Ça fait trembler, ça fait une émotion, il se passe quelque chose. Et notre rapport à l'argent peut être très émotionnel. On peut en faire vite une idole. C'est Alexandre Dumas qui a écrit: N'estime l'argent ni plus ni moins qu'il ne vaut. C'est un bon serviteur et un mauvais maître. Et c'est vrai que l'argent est un mauvais maître. Quand on commence à l'aduler, à le servir, là on souffre. Quand l'argent reste un serviteur qu'on utilise, tout se passe assez bien, relativement bien. Le premier verset que j'aimerais que nous regardions, c'est 1 Timothée chapitre 6 verset 10. C'est le passage clé dans le Nouveau Testament. 1 Timothée chapitre 6. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors, comme c'est interactif, je vais vous poser des questions. Qu'est-ce que Dieu, contre quoi Dieu nous met-il en garde dans ce verset? Est-ce qu'il nous demande de nous méfier de l'argent en général? De l'avarice, de l'amour de l'argent, de l'idolâtrie, de l'adulation de l'argent. L'argent est un outil normalement. L'argent est arrivé là parce qu'au début on faisait du troc, et puis c'est devenu une monnaie à part entière et aujourd'hui on l'utilise pour acheter. Mais l'argent n'est ni bon ni mauvais, il est neutre. C'est l'amour de l'argent là qui devient dangereux. Et lorsqu'un chrétien est pris par cet amour, de cette volonté de s'enrichir, quel verbe il utilise là pour dire, exprimer l'amour qu'on peut avoir ou le être possédé. Alors là, ça fait vraiment penser à un démon, hein. Oui, et au lieu de posséder l'argent, on est possédé par l'argent. Mais c'est un verbe fort là qui dit c'est des gens qui n'arrivent plus à réfléchir, ils voient l'argent, l'argent, l'argent. Et ce sont des chrétiens là hein, qui s'adressent. Ils s'égarent loin de la foi. Et les problèmes d'argent ou l'amour de l'argent peuvent vraiment nous éloigner de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, on ne peut pas adorer Dieu et Mammon. Hein. Mammon, chez les Juifs, c'était une personnification de l'argent. On l'appelait le Dieu Mammon. Et chez les pharisiens et chez certains sadducéens, il y avait vraiment un amour de l'argent. Ils étaient prêts à tout pour s'enrichir. Ils s'enrichissaient sur le dos des fidèles, sur le temple, vous vous rappelez, les vendeurs du temple. Tous les bénéfices des vendeurs du temple, il y avait une marge, un pourcentage qui arrivait chez les souverains sacrificateurs. Hein. Le souverain sacrificateur ramassait l'argent. Il était très corrompu au temps du Seigneur Jésus. Et Jésus a dénoncé cet amour de l'argent. Et on se jette soi-même dans des tourments quand on commence à vouloir s'enrichir. L'argent ne doit pas être un dieu. Toujours dans la même veine, hein, on ne doit pas adorer l'argent. Un autre verset, Proverbe 18:11. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Vous savez que les proverbes sont des formes d'énigmes qui nous appellent à réfléchir. Quel est le message de ce proverbe-là, en résumé? On a l'impression, c'est moi qui rajoute à ta phrase, mais on a l'impression que l'argent nous protège, qu'avec l'argent, rien ne peut nous arriver. Est-ce que c'est vrai? D'accord, il y a des témoins qui ont vécu. Non, l'argent ne protège pas de tout. Parfois, on se dit, ah ben avec l'argent, j'achèterai les meilleurs médecins quand je serai malade. Mais les meilleurs médecins, d'abord, ne sont pas les plus chers, forcément. Des fois, il y en a qui sont très chers et qui sont mauvais. Et puis, il y a des maladies, vous pouvez avoir le meilleur médecin. Voilà, ils ne peuvent pas tout régler. Mais c'est quelque chose qui vient tout de suite. Dès que vous avez une certaine somme d'argent, vous vous sentez protégé. Quand même, j'ai un petit tapis, là on dit un tapis. Hein. Voilà. C'est ça. Ça me protège, ça me garde en cas de pépin, je peux toujours payer. Voilà. Et quelle est la conséquence de ça? Au lieu de compter sur Dieu, on compte sur son argent, sur son matelas ou son tapis. Et quelqu'un qui ne compte pas sur l'argent, il n'a que le Seigneur. Il dit, Seigneur, voilà, ma vie est entre tes mains, je ne vais pas acheter mon salut. L'argent ne doit pas être un dieu. Un autre verset, Matthieu 19, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, mais qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alors, pourriez-vous me dire pourquoi les disciples sont très étonnés? Pourquoi ils disent, mais qui peut être sauvé alors? Voilà, dans la culture israélite et juive, la richesse est une bénédiction et on le voit dans l'Ancien Testament. Abraham a été béni, Joseph, ils ont tous été bénis, tous ceux qui marchaient avec Dieu, bénis matériellement. Et là, il dit, mais les riches, c'est ceux qui ont le plus de mal à entrer. Il dit, ben alors, même les riches qui sont bénis ne peuvent pas entrer, qui va rentrer? Hein? Nous, les pauvres, on ne pourra pas rentrer. Il faut savoir aussi que parmi les disciples, il y avait certains riches ou ex-riches. Pierre, patron pêcheur, il devait bien gagner sa vie. Il avait plusieurs bateaux, des employés. Sur le lac, tout le monde mangeait du poisson. Hein? Matthieu, ancien péager, donc il avait un travail de fonctionnaire, mais assez bien payé, je pense. Donc, c'est des gens qui savaient ce que ça voulait dire d'être riche, et sont très choqués presque. Alors pourquoi est-ce si difficile à un riche d'entrer dans le royaume? Bon, il y a d'autres péchés, il y a d'autres choses qui nous font nous perdre. C'est pas la raison. Oui? Voilà, c'est plus cette voie-là, c'est que celui qui est riche pense qu'il n'a pas besoin de Dieu, puisqu'il a son argent. Oui. C'est ça. Voilà, quand il a un besoin, l'argent, soi-disant, répond. Et, mais c'est ça. Oui, Gina? C'est vrai, on peut remplir sa vie, mes vacances aux Maldives, mon yacht, il faut que je m'en occupe. Ma Ferrari, il faut que je la fasse nettoyer, il faut que je fasse vider le cendrier. Toutes ces choses, non mais on caricature, mais voilà. Ouais. Ouais. Oui. Tout à fait. Ouais. 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 Voilà. Ouais. Ouais. Bon, Dieu ne demande pas d'être pauvre. Il ne dit pas pour être sauvé, il faut être pauvre. Donc il ne demande pas de lâcher forcément l'argent, mais il faut le lâcher spirituellement. Pas forcément matériellement, mais spirituellement, il faut dire, l'argent n'est plus mon Dieu. Je ne compte pas sur l'argent pour ma vie. Je l'utilise, mais je ne compte pas sur lui. Et ça, c'est tout, on a tous besoin de faire ce travail. Oui, Marie-Marie. Mais même dans les épreuves, il compte encore sur l'argent pour les sortir. C'est ça qui est dur pour le riche. Le pauvre, quand il est dans l'épreuve, il n'a rien. Donc il n'a plus que Dieu. Mais le riche, dans l'épreuve, il dit, je vais encore m'en tirer avec ma richesse ou ma fortune. Mais c'est vrai que bon, hein, il y a un moment où il arrive au bout de... Ouais. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a des personnes qui vivent sans jamais se soucier de Dieu toute leur vie. Ils meurent confortablement, ils ont vécu confortablement. Ils n'ont pas pensé à leur âme, hein, ça fait penser à cette parabole hein, de ce fermier hein, qui accumule dans ses greniers. Puis il dit, mon âme, réjouis-toi, voilà. Puis Dieu lui dit, mais c'est l'heure, tu vas mourir ce soir, tu n'es pas prêt, tu es un insensé. Et beaucoup vivent en insensé, voilà. Et nous sommes plutôt riches hein, en France, hein, en moyenne, par rapport au reste du monde. Hein. Il ne faut pas penser que parmi nous, il y a des super riches et des... Bon, il y en a, mais pas parmi nous ici, je veux dire. Mais en France, il y a des super riches. Mais je veux dire, la France elle-même est déjà riche par rapport à beaucoup d'autres pays. Et donc, on est tous concernés un petit peu. Voilà, alors ça, ce sera dans l'utilisation. Ouais. Là, tu passes déjà, tu vas plus loin. On est dans la considération, comment on regarde l'argent. Deuxième principe, le premier principe c'était quoi? L'argent n'est pas un dieu. Deuxième principe, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, mais il y contribue, qui est un mensonge absolu, mais bon. Voilà. Premier verset, Ecclésiaste. L'Ecclésiaste a beaucoup de choses à dire sur l'argent. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Qu'est-ce qui a écrit l'Ecclésiaste, ce verset? Salomon, qu'est-ce qu'il avait comme train de vie, Salomon? Aujourd'hui, ce serait un multimilliardaire. Hein. Voilà, il recevait 666 talents d'or par an. Les talents, c'était la plus haute somme possible, c'était des milliers de... Bon. Il prenait des impôts à son peuple, en plus il en voulait toujours plus, hein. Il demandait énormément d'impôts pour son pays, mais aussi pour lui, pour sa belle maison faite avec des cèdres du Liban. Et il savait ce que c'est d'être très très riche, vraiment. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est une vanité, parce que ça ne rassasie pas. Et on peut vraiment imaginer Salomon, parce que les riches, quand ils sont à un certain niveau, ils s'ennuient, parce qu'ils n'ont pas besoin de travailler. Il y a l'argent qui travaille pour eux. Et donc, il faut qu'ils occupent leur journée et qu'ils dépensent assez, parce que l'argent arrive tellement qu'il faut quand même trouver le temps de le faire sortir quelque part, de le dépenser. Alors, ils cherchent des activités pour s'occuper, et il y a un ennui profond. Et alors, Salomon raconte, il dit, eh ben, je suis allé dans la folie. Alors, je riais, je faisais l'idiot, le fou. Mais bon, c'est une vanité. Alors après, j'ai construit des jardins. Alors, il a commencé, il s'est mis, tiens, je vais planter des jardins un peu comme Louis XIV hein, à Versailles. Voilà. Et puis il dit, à la fin, quand j'ai planté mes jardins, ben, c'est une vanité. Et tout ce qu'il a essayé et qu'il raconte dans l'Ecclésiaste, dans les premiers chapitres, il dit, c'est une vanité, ça ne rassasie pas.
C'est le verset 9, hein.
10, oui, l'argent ne rassasie pas. Et ça, beaucoup de riches ont du mal à l'accepter. Peut-être 9 et 10, d'accord. Ouais. Beaucoup de riches ont du mal à accepter que l'argent ne rassasie pas. Ils essayent toujours, mais peut-être qu'en dépensant ça ou en achetant ça, je vais combler ma vie. Heureusement, avec la crise financière, etc., que l'on vit en France et en Europe, certains commencent à réaliser que l'argent ne fait pas le bonheur, que l'argent ne comble pas, que le matérialisme te laisse de plus en plus vide. Surtout quand tu as des désirs que tu n'arrives pas à satisfaire. Je pense que c'est le pire. Quand vous voulez, vous convoitez, on vous présente plein de choses à acheter et que vous n'avez pas d'argent, c'est horrible. C'est vraiment une torture presque. Alors que la Bible nous enseigne le contentement, hein, d'être content avec ce qu'on a. Donc, l'argent ne rassasie pas. Un autre verset. Oui, c'est verset 9. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Bon, je ne sais pas s'il y a des femmes intelligentes parmi nous. Femme intelligente dans la Bible, c'est une femme qui aime le Seigneur, qui craint Dieu. Hein? Voilà, la femme vertueuse. Et quel est le message de ce proverbe-là? Et est-ce que l'argent peut acheter une femme intelligente? Voilà, c'est un don. Hein, vous avez vu, il y a richesse et puis il y a don. Votre argent peut vous acheter une magnifique maison, une magnifique voiture, une villa, une maison de campagne, tout ce que vous voulez. Mais avoir une femme intelligente près de vous, pour un homme, hein, c'est un don de Dieu. Et donc on n'achète pas l'amour. On n'achète pas la spiritualité, on n'achète pas la foi. Et ça, c'est merveilleux, c'est gratuit, ça vient de Dieu. Troisième élément, l'argent ne fait pas le bonheur. On en a parlé déjà. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Est-ce que l'argent peut acheter le salut? Non. Parce que nous avions une vaine manière de vivre, on vivait dans le vide, dans la perdition, dans le péché. C'est seulement le sang précieux de Christ. Pourquoi le sang du Seigneur est-il si précieux? Parce qu'il est pur, parce qu'il vient d'un être pur, absolument parfait. Voilà. Et c'est un sang éternel. Oui. C'est un sang qui agit encore aujourd'hui, lorsqu'on croit au sacrifice, il a une puissance éternelle, le sang précieux de Christ qui nous lave de nos péchés, comme c'est une allusion à l'Ancien Testament, hein, où le sang des animaux couvrait les fautes. Alors, premier principe de considération, l'argent n'est pas un dieu. Deuxième principe, l'argent ne fait pas le bonheur. Troisième principe, l'argent nous est confié par Dieu. Hein, c'est la parabole des talents. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Et ça, c'est très important. Pardon? Ah oui, vous trouvez? Non, pas par l'argent. Il regarde la personne qui lui donne, non? Il est reconnaissant, il est reconnaissant. Ne jugez pas les apparences, ne jugez pas les apparences. C'est peut-être celui du milieu qui est le pire. Hein? Donc c'est la parabole des talents qui est illustrée ici, le maître qui s'en va et qui va distribuer. Mais on va en parler dans un instant. Juste avant, un principe très important où Dieu dit « l'argent est à moi et l'or est à moi ». L'argent est à moi et l'or est à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout argent, tout or, tout bien matériel à la limite, appartient à Dieu. Donc si j'ai quelque chose, moi chrétien, en fait ça appartient à Dieu. Et ce que j'ai m'est prêté ou confié par Dieu. Et ça permet aussi de soulager cette fausse guerre que les marxistes ont lancée, hein, que Karl Marx a lancée, c'est qu'il y a les pauvres contre les riches et les riches contre les pauvres. La Bible dit que Dieu fait le riche et le pauvre. Il fait l'un comme l'autre. Être riche n'est pas une malédiction ni une bénédiction particulière. Être pauvre n'est pas une malédiction ni une bénédiction particulière. Il y en a qui sont appelés, on peut dire, qui ont un don pour être riche. Et parfois, c'est même un ministère, hein, de libéralité. Voilà. Bon, c'est pas, ils ne sont pas forcément plus riches, mais ils sont plus généreux, en tout cas. Voilà. Oui? Bah, c'est pas sûr, hein. On peut rester pauvre. Il peut espérer. Oui, tout à fait. Comme dit Jacques, hein. Et un riche. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Ou on peut s'être enrichi de façon malhonnête, attention. Voilà. Voilà. Être riche n'est pas mal vu par Dieu. Oui. Voilà. Oui. Non. Oui. Oui, c'est totalement artificiel, c'est informatique presque. Hein. C'est des ordinateurs qui... Là, c'est le capitalisme qui s'est emballé dans une folie absolue. Hein. Ce sont des ordinateurs qui calculent les placements à des milliards d'opérations par seconde et pour vendre au meilleur prix, acheter au meilleur prix en permanence. Et ça s'emballe, c'est-à-dire on est arrivé à une folie qui a tout fait craquer. Donc, tout est à Dieu. Ça, c'est important de réaliser. Seigneur, tout est à toi. Tout ce que j'ai, ma maison, mes biens, mes vêtements, ma nourriture, ma voiture, tout est à toi, Seigneur. Deuxième élément, l'argent nous est confié. Genèse 1, 28, Dieu les bénit, il bénit Adam et Ève, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, quel est le message, toujours dans le sens que Dieu nous confie les choses? Qu'est-ce que dit ce verset en gros? On doit gérer quoi là en particulier? La création, la terre. Hein. On est sur la terre, Dieu nous a mis sur la terre, il faut la gérer. Nous sommes des gestionnaires sous la bénédiction de Dieu. Hein. Qui les bénit, qui les multiplie en plus. Donc la terre doit être, nous est confiée. Donc sur la terre, il y a de l'or, il y a des biens matériels, il y en a qui ont des terres très fertiles, il y en a qui ont des terres plus sèches. Peu importe, Dieu me confie ces choses pour que je les fasse fructifier. Donc fructifier est une bonne chose. Enterrer le talent est un péché, on peut dire. Hein. Dieu veut qu'on fasse fructifier ce qu'il nous donne. Mais c'est lui qui nous le confie. C'est à lui et on doit toujours lui rendre grâce et demander qu'il bénisse ce qu'il nous a donné et non pas dire « moi je suis Dieu, la terre m'appartient, je fais ce que je veux avec ». C'est là aussi, on est arrivé à une folie hein, où avec le pétrole, avec toutes les ressources minérales, etc., les hommes pompaient et ils ruinent la terre. Hein. Voilà, avec la pollution, avec toutes sortes de choses. L'argent nous est confié, troisième élément, la fameuse parabole des talents. Donc, qui est le riche maître qui s'en va en voyage? C'est le Seigneur. Il est parti où, le Seigneur? Voilà, il est parti nous préparer une place, il est au ciel. Hein, et il confie à ses trois serviteurs, Donc, hop, voilà. Alors, à 1, il donne plus. Vous avez remarqué, au premier, il donne 5. Au deuxième, il donne 2. Et au troisième, il donne 1. Alors déjà, le fait qu'il donne différemment à chacun, qu'est-ce que ça veut symboliser? Je ne me rappelle pas si le texte le précise. À chacun selon sa capacité. Donc voilà. Nous avons des capacités différentes, des dons. Et certains vont avoir la capacité d'être riches, c'est-à-dire de construire, d'entreprendre, d'avoir des idées, etc. Ils vont créer ou avoir le don du commerce ou je ne sais pas quoi, bon, peu importe. Voilà, il va avoir plus de biens en responsabilité. Mais plus de biens, ça veut dire plus de responsabilité. Ce n'est pas juste plus de vacances. Et le premier qui reçoit 5, il investit ces 5. Et qu'est-ce qu'il gagne? Combien? Enfin, il gagne le double. Voilà. Multiplie par 2, ça fait 10. Le second, qu'est-ce qu'il fait avec les 2? Il investit, il gagne le double, 4. Et le troisième, qu'est-ce qu'il fait avec son talent? Il l'enterre. Voilà. Donc celui-là, au lieu de faire fructifier, il enterre, il met à la banque. Ouais, même pas, oui. Bon, enfin, il fait... Mais bon, c'est un peu, peut-être, oui, voilà, il met sous le matelas, voilà. Et il dit, quand le maître vient, voilà. Mais... Je dirais, le fait de mettre à la banque quelque part, c'est pas utiliser l'argent, parce que, enfin, sauf si la banque le, voilà. Ah oui, un intérêt, oui, c'est ça. Oui, il lui dit, tu aurais pu le mettre à la banque, oui. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, au moins un petit peu. Là, il a juste. Je veux rien avoir à faire avec ça. Et il n'aimait pas beaucoup le maître, et il pensait que le maître était dur. Et c'est des personnes qui n'ont pas la foi, qui pensent que Dieu, en nous confiant les choses, n'est pas bon, on n'est pas juste. Hein. Et il y a des personnes qui sont pauvres, en fait, parce qu'ils refusent la vie que Dieu leur donne et ils vivent dans leur folie, hein, dans leur perdition. Mais en tout cas, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à gérer ce que Dieu nous donne. On ne doit pas se comparer à lui, il a eu ça et moi, je n'ai pas eu ça, tant pis. Ce n'est pas ça qui compte. Dieu m'a donné des talents, une certaine santé, une certaine intelligence, une certaine capacité physique, morale, spirituelle, etc. À moi de l'utiliser. Je suis gérant des biens de Dieu. Donc, les trois principes de considération, l'argent n'est pas un Dieu, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent nous est confié. Ça, c'est, voilà comment, selon la Bible, on doit considérer l'argent à sa juste valeur, comme un serviteur, hein, pas comme un maître. Voilà. Alors, maintenant, il y a les trois principes d'utilisation que l'on trouve dans la parole de Dieu. Comment le chrétien doit-il utiliser son argent? Alors, une citation anonyme. Trop de gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin afin d'impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. C'est pas mal comme citation, c'est pas dans la parole de Dieu, mais voilà, des gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas. Comment on fait ça? Ben, par le crédit, hein, ou, pour acheter des choses dont ils n'ont pas vraiment besoin. Au fond, c'est parce que la pub m'a fait acheter, mais en tout cas, je veux impressionner ces gens-là, mais je les aime pas, donc je vais. Bon, c'est l'absurdité de notre monde centré sur l'argent. Que dit la parole de Dieu? Elle nous demande d'utiliser l'argent avec sagesse. Alors on verra trois éléments, un par un. D'abord, attention au crédit. Pas aux cartes bleues forcément, mais au crédit. Oui, tu dis ce que tu vois. Tu vois des cartes bleues, tu dis attention aux cartes bleues. Alors regardons ensemble dans le livre des Proverbes au chapitre 6. Alors c'est vrai qu'il y avait cet homme interrogé récemment qui disait que les cartes bleues sont très très faciles à cloner ou on peut même... Si vous achetez par exemple avec votre smartphone, surtout ne faites jamais ça, n'achetez rien avec votre smartphone parce qu'il y a des logiciels espions qui permettent de savoir tout ce que vous dites, faites avec votre smartphone, tous vos codes Même les trois petits chiffres de la carte bleue, tout est là dans votre smartphone quand vous l'utilisez. Et même dans l'ordinateur, il y a des logiciels espions qui vont vers les ordinateurs. C'est plus compliqué, mais ils y arrivent. Donc, soyons extrêmement prudents avec toutes ces choses, surtout avec la dématérialisation. Hein. Le fait que tout passe par... c'est pratique, hein, avec mon téléphone, tac, 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 j'achète. C'est pratique, sauf que le jour où ton voisin te pique toutes tes données... On peut acheter avec un téléphone, oui. Ah oui, oui, les smartphones font tout maintenant. Alors, la sagesse. D'abord, premier passage de Proverbe 6. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va. Prosterne-toi, fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi, comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Donc là, c'est être dégagé de quoi? De l'endettement. Hein? Voilà, l'esclavage, de l'endettement. Quand on est endetté, il n'y a rien de pire. C'est des angoisses terribles. Voilà, là... Ça, c'est quelqu'un qui est entre deux, en fait, et qui s'est porté caution. C'est dette. Ouais. Alors, je connais un chrétien qui a épousé une jeune femme qui n'était pas honnête, mais il ne s'en rendait pas compte. Et elle a commencé à faire des crédits et à dépenser l'argent du compte commun et à faire d'énormes dettes. Puis, elle a divorcé. Et lui s'est retrouvé, ça fait 7 ans qu'il rembourse les dettes de sa femme, ex-femme. 7 ans. Et ça fait 7 ans qu'il ne peut rien faire de plus que de rembourser les dettes. Déjà, il a un petit salaire. Et il dit vivement que j'en finisse, j'en peux plus, je suis là. Et en plus, il a toujours peur qu'on vienne lui saisir quelque chose ou qu'il n'ait pas assez d'argent pour son loyer ce mois-ci. Il vit dans cette crainte. C'est vraiment terrible. Alors lui, là, il était victime. Mais on peut être coupable lorsqu'on utilise le crédit. On est très sollicité, hein. Il y a plusieurs sociétés de crédit qui font beaucoup de publicité, énormément de publicité, en disant c'est simple, c'est pas cher. Ils vous mettent des taux 2%, 5%. Quand vous voyez ça, vous dites, bon, ben, ça va, c'est raisonnable. Et puis quand vous y avez signé, c'est 20%. Voilà. Oui, déjà, c'est par mois. Oui, ça fait 24. Voilà, c'est ça. De toute façon, c'est par mois déjà. Oui. Vraiment? Non? D'accord. De toute façon, vraiment, c'est très dangereux. Et heureusement qu'il y a des lois en France, hein, notamment les banques vous interdisent de vous endetter à plus de 20%, je crois, de votre 33% de son revenu. Mais je pense qu'il y a des gens qui arrivent à aller au-delà en faisant soit des fausses déclarations, soit en allant justement prendre un contrat à droite, à gauche. Et pourquoi il y a tant de crédits, tant d'utilisation? C'est peut-être encore plus fort aux États-Unis. C'est parce qu'on veut acheter et on n'a pas l'argent pour acheter. Qu'est-ce que doit faire le chrétien? Le chrétien ne doit pas se mettre prisonnier comme un oiseau dans le filet de l'oiseleur. Le chrétien doit acheter avec l'argent qu'il a. Bon, c'est un principe qui est pas mal à avoir. J'achète avec mon argent. Voilà. J'achète pas avec de l'argent virtuel que j'aurai ou que je vais emprunter. Alors, on parle souvent, bon, on dit, mais quand je veux acheter un appartement à Paris, je n'ai pas 150 000 euros sur mon compte. Je suis obligé de faire un crédit à la banque, un emprunt. Et je pense qu'il y a quand même des cas où on est un peu obligé, surtout à notre époque. Mais il faut le moins possible utiliser ces choses. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on épargne. On dit, voilà, on a besoin d'une voiture. Ça va coûter tant d'occasion, on a un bon truc là, pas mal, garantie. Bon, mais on va épargner jusqu'à ce qu'on ait la somme pour acheter cette voiture et on va compter sur le Seigneur. Des fois, le Seigneur accélère, c'est-à-dire, on dit, ben là, ça va nous mettre 3 ans pour mettre de côté. Et puis, un don, un aide, un truc, une prime qui arrive, plouf, En un an et demi, ça y est, on a réuni la somme, merci Seigneur. Mais on compte sur Dieu et sur ce qu'on a. On ne dit pas, oh, il me faut cette voiture, vite, je vais faire un crédit, un emprunt. On doit vraiment savoir compter sur Dieu. Ce n'est pas l'argent, parce que la société de consommation vous propose de l'argent, vous vend de l'argent, parce que c'est ça, un crédit, on vous vend de l'argent. Pour que vous ayez, y alliez, vous consommez, il faut consommer. Et le danger, c'est que, eh bien, on se laisse prendre dans cette spirale et un moment, on est fichu. Combien de gens sont en interdit bancaire? Alors, je pense que dans l'Église, on est plus ou moins raisonnable, mais vraiment, avertissez ceux qui sont en danger et parce que il vaut mieux vivre avec moins, mais être bien dormir la nuit. Alors, il y avait Marie-Vonne. Oui, mais on n'en sait rien. Oui. Tu l'utilises, tu veux dire? Très protégé. Oui. C'est ça. Oui, même c'est plus avantageux, souvent. Ils ont épargné. Tout de suite. Avec ce qu'on a. Ouais. Bon, il n'y a rien de plus difficile que de descendre. Donc, si on était bien gâté à la maison, c'est dur de descendre. Voilà. Oui. Voilà, un à la fois. Oui. Tu payes plus cher à la fin. Oui. Oui. Voilà, mais tu vis quand même avec ce poids, et même si ce n'est pas beaucoup par mois, quand tu fais le total de ce que tu payes à la fin, tu payes quand même beaucoup plus cher que si tu l'avais acheté comptant. Voilà, c'est ça. Oui, tu payes plus cher. Oui. Oui. Mmh. Oui. C'est ça. Toi, c'est pour ton travail. Oui. Oui. Non, mais. Ouais. Voilà, si tu arrives à gérer ton budget comme ça et que tu ne transgresses jamais ta loi un seul crédit à la fois, voilà, mais il y a des personnes, ils font ça un an, 2 ans, puis au bout de 3 ans, ils disent, ah, il me faudrait un deuxième crédit parce que j'ai besoin, ma machine est tombée en panne, j'ai plus ma voiture. On a deux trucs, tu vois, qui. Et la tentation, c'est de prendre un deuxième. Oh, un, bon, un de plus, ça va pas. Puis, etc. Par exemple. Mets de côté. Voilà. Voilà, c'est l'épargne en fait. Tu épargnes. C'est ça, oui. Bon, il peut arriver qu'on n'ait rien dans l'épargne au moment où on a un gros besoin. Hein. Ça, bien sûr, ça peut arriver. Mais si on gère bien au jour le jour ou au mois le mois son budget, on peut chaque mois justement dire je vais mettre de côté une petite somme et ce sera pour le besoin le jour où j'en aurai besoin. Voilà. Oui, est-ce qu'on paierait pour un crédit? Mais bon. Oui, c'est ça. Oui. Pour moi, c'est, disons, le principe qui ressort de la Bible le plus, hein, et si on peut le mettre en pratique, c'est payer comptant, épargner et payer que ce qu'on a, ce qu'on peut payer vraiment. Après, on compte sur Dieu. Parce que le danger, c'est qu'on compte sur le crédit, plus sur Dieu. Tu vois? Si j'ai un problème, j'ai toujours le crédit qui va m'en sortir. Et c'est là où l'argent devient ton maître. Voilà. Il y a vraiment ce danger. Voilà, il y a un. Bon. Oui, il y a un engagement, même. Ah oui, c'est. C'est ça. De toute façon, hein, il faut savoir se contenter du nécessaire. Y a des gens qui font un crédit pour payer leur crédit. Hein, donc, voilà. Et pour aller en vacances, alors qu'ils n'ont pas, qu'ils sont endettés, qu'ils sont à découvert. Ouais. Bon, ça, c'est ça. Voilà. Ouais. Ah non, ça ne mérite pas. Eh oui, c'est ça.
Pour la télévision, il n'y a pas de crédit.
Ouais.
Il y a des choses, c'est des objets de nécessité absolue
ouais.
sur lesquels on fait un crédit.
C'est ça.
Après, les choses qui sont loisirs et gadgets et tout ça, il n'y a pas de crédit.
Tout à fait. Deuxième partie du proverbe 6. Donc là, on a vu attention au crédit. Alors, ce n'est personne en particulier, hein. Voilà, c'est une image quand même qui dit bien ce qu'elle veut dire. Hein. C'est la suite du proverbe 6. Va vers la fourmi paresseux. Hein, paresseux, là, s'adresse au paresseux. Considère les voies de la fourmi, devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, sous-entendu. Pour quand? Pour l'hiver. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Voilà, donc ça c'est l'autre. Donc là vraiment, il est parfait lui. Hein. Il croise les mains et il dort. Alors s'il veut bien paraître, voilà. La Bible, ben oui, forcément. Quand on ne travaille pas, on a de la brioche. La Bible insiste sur l'importance de travailler. Le travail est le précieux trésor de l'homme, dit la Bible. C'est une bénédiction de travailler. C'est parfois pénible, mais peu importe. C'est comme ça qu'on doit gagner sa vie, en travaillant. Et il n'y a pas de sot métier, il n'y a pas de travail indigne. Tout travail mérite salaire, comme on dit. Et donc, quelqu'un qui compte sur les subsides de l'État, par exemple, sans travailler, en disant « l'État va me payer voilà, », comme un certain nombre font, ce n'est pas digne d'un chrétien. Un chrétien, il va faire tout son possible pour travailler et ramener de l'argent pour payer sa nourriture et le minimum qu'il doit payer. Ça fait partie de la sagesse d'utilisation de l'argent. Le troisième passage de Proverbe 6, c'est le suivant. Donc, vous avez ici un homme. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Il a une belle cravate. À mon avis, il n'est pas très honnête. C'est la suite du Proverbe 6, 12 à 15. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Or, la description qu'il donne ici, la fausseté dans la bouche, qui cligne des yeux, qui parle du pied, tout ça, c'était les commerçants de l'époque. Hein. Les vendeurs sur les marchés, ils avaient toutes sortes de signes, entre eux ou avec des faux clients, enfin, ils faisaient toutes sortes d'escroqueries déjà à l'époque. Hein. Et donc, le commerçant était souvent connu comme étant quelqu'un de malhonnête. Hein, et si un chrétien est dans le commerce, il doit être absolument honnête. Si on est appelé à avoir une clientèle, à être devant une clientèle, on doit être absolument honnête. Et si le patron fait pression en disant « tu dois mentir », on doit dire « non, je suis chrétien, je ne mens pas ». Voilà. Oui, tout à fait. Dans les bourses. Voilà, c'est ça. Et je prends, je... Oui. Oui, c'est ça. Non, non. Ouais. Combien ça veut dire Bon. Oui. Ah oui, c'est vrai, oui, dans les foires aux bestiaux. D'accord. Ouais. Alors c'est vrai que dans la bourse ou dans les foires, il y a tellement de bruit qu'on ne peut pas dire les mots. Ils sont obligés de faire des gestes pour qu'on faire comprendre. Mais là, il parle de quelqu'un de malhonnête. Et la malhonnêteté, même si on dit ça va me rapporter de l'argent, sur le coup, à la fin, c'est jugé par Dieu. Et donc, il vaut mieux gagner un peu moins sur le coup, mais être dans la bénédiction de Dieu. Donc, premier principe d'utilisation, la sagesse. Avoir de la sagesse dans sa façon. Alors, ce n'est pas fini. Avec la sagesse, c'est que Dieu nous dit en quoi on doit utiliser notre argent. Proverbe 3, « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. » Voilà, ça c'est quoi le message ici? Quelque part, donner les prémices, donc c'est le premier revenu qu'on a à Dieu. Donc là c'était les dîmes, hein. Ils donnaient 10% de leur moisson, par exemple, quand ils avaient une moisson. En premier, ça allait d'abord à Dieu, parce que Dieu est priorité, premier dans ma vie. Donc ça, c'est un principe biblique. Ça, c'est la sagesse du chrétien. C'est, je gagne un revenu, je mets 10% à part pour le Seigneur. Voilà. C'est parce que tout appartient à Dieu, alors je peux lui donner 10%. Toujours la sagesse. Là, c'est plus précis dans les dîmes. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Hein, les dîmes, ça, c'est dans la maison du trésor et la maison de l'Éternel. Donc, ça, c'est dans le temple. Et nous, aujourd'hui, nous n'avons pas un temple, nous avons une église. Dieu nous appelle à apporter nos dîmes aussi pour l'église, pour que l'église avance, qu'elle fonctionne, etc. Je suis obligé d'accélérer un peu. Et oui, les écluses des cieux. Deuxième principe, après la sagesse, il faut utiliser l'argent avec la foi. Hop. Est-ce que tu... Oui, ça marche. Voilà. Premier principe, premier verset, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La foi, elle dit, je ne manquerai de rien. Ça, c'est la foi. Parce qu'on peut dire, oui, mais il y a la crise, je peux tomber malade. Je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel est mon berger. Ce n'est pas l'argent qui est mon berger. Ce n'est pas mon patron qui est mon berger. C'est l'Éternel, c'est le Seigneur lui-même. Je suis sa brebis. Voilà. Ça, c'est le premier acte de foi du chrétien. Deuxième, Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Et est-ce que Dieu a de la richesse? Oui, il a toute la richesse. Il a dit tout l'or et l'argent m'appartiennent. Avec gloire en Jésus-Christ. Donc, en Jésus-Christ, attention, c'est en Jésus-Christ. Ce n'est pas, Seigneur, j'ai besoin d'argent pour aller au casino. Ne croyez pas que Dieu va exaucer cette prière. Seigneur, fais-moi gagner au loto. Non. C'est à vos besoins, selon sa richesse et en Jésus-Christ. Mais Dieu est infiniment riche. On peut compter sur lui, plus que sur les banquiers ou les crédits. Toujours la foi. Un verset très important et très beau. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Quel est le mot qui ressort là? Qui revient, pardon, pas qui ressort. Tout. Hein? Toutes sortes, toujours, en toutes choses, à tous vos besoins, pour toute bonne œuvre. Donc là, il y a une insistance volontaire. Le Seigneur est en train de nous dire que Dieu va nous bénir matériellement, là, il parle de choses matérielles, hein, pour qu'on ait toujours de quoi satisfaire à nos besoins, nos vrais besoins, pas ceux qu'on imagine, hein, nos véritables besoins, on aura toujours de quoi y pourvoir. Et même, qu'est-ce que ça veut dire, vous ayez encore en abondance, c'est un peu du vieux français. Voilà. Exactement, il donne encore plus pour qu'on partage le plus. Et donc, quand j'ai plus d'argent, et là, c'est souvent ce principe que je répète souvent, et qui m'a éclairé, moi, venant des écoles de commerce, n'est-ce pas, on ne nous enseignait jamais ces choses-là. Quand ton revenu augmente, ce n'est pas forcément pour toi qu'il augmente. C'est pour que tu donnes à d'autres. Ce n'est pas, si mon revenu augmente, je ne vais pas forcément augmenter mon niveau de vie à chaque fois. J'achète une plus belle voiture, des plus beaux costumes, une plus belle maison, une plus belle femme. Non, on ne peut pas acheter une femme. Ça ne s'achète pas, l'amour. Mais non, plus je reçois, il y a un moment, j'ai dit, voilà, tous mes besoins sont satisfaits. Maintenant, je donne, je partage. Je vous avais peut-être déjà donné l'exemple de John Wesley, ce grand prédicateur de l'Évangile, qui vivait des dons, hein, et des offrandes à des gens. Et il prêchait 3 ou 4 messages par jour, hein, dans les rues, toute sa vie, jusqu'à sa mort. Et à un moment, donc, il recevait de plus en plus de dons. Et avec sa femme, ils ont dit, voilà, regarde, on a tant par mois. C'est largement au-dessus de ce qu'il nous faut. On va se contenter de tant, parce que là, avec ça, on peut payer la nourriture pour la maison, les enfants. On peut payer la bonne, ou je ne sais pas comment dire, la gouvernante. Hein, enfin, ils avaient une gouvernante, etc. Tout le reste, on va le donner pour la mission, pour l'Évangile. Ils ont fait ça jusqu'à la fin de leur jour. Ils n'ont jamais augmenté leur salaire. Il ne s'est jamais augmenté, hein, comme on pourrait dire, comme les patrons aujourd'hui. Il a dit, j'ai ce qu'il me faut. Donc ça, c'est vraiment un principe chrétien. Si Dieu me donne plus, ce n'est pas pour moi, c'est pour partager. Alors nous, les riches français, on devrait y penser. Toujours la foi. Alors c'est le verset qu'on a lu tout à l'heure de Malachie. C'est la fin, hein. Vous verrez si, mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et qu'est-ce qu'il voulait dire, mettez-moi à l'épreuve, hein, le pasteur Somerville nous l'a répété maintes et maintes fois. Quand vous avez un petit revenu et vous lisez dans la Bible, donnez la dîme de votre revenu. Dites, attends, je ne vais pas donner 10% de mon salaire, tu vous plaisantez. Comment je vais faire, je n'aurai pas assez pour tous mes frais. Mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve, dit le Seigneur, et vous verrez si je n'ouvre pas à la bénédiction. Et ceux qui ont fait ça n'ont jamais manqué de rien. Ils peuvent en témoigner. Hein. Il y a plusieurs ici, notamment. Et quand on met Dieu en premier, ça se passe bien. On n'a pas de souci. Et je n'ai jamais entendu un chrétien dire, voilà, depuis que je donne la dîme, je n'arrive plus à m'en sortir. C'est plutôt l'inverse. Depuis que j'ai arrêté de donner la dîme, j'ai des problèmes. Voilà. La dîme n'est pas simplement pour l'enrichissement personnel de l'église ou du pasteur, n'est-ce pas? La dîme, c'est pour le fonctionnement de l'assemblée. Donc, c'est l'argent aussi qu'on met en commun ensemble. Hein. Il y a une trésorière qui le reçoit et qui fait les comptes, mais ce n'est pas la trésorière qui dépense n'importe comment, ce n'est pas, même pas le pasteur, hein. C'est l'Église hein, qui a, il y a des frais, etc. Et on essaye aussi, bien sûr, d'acheter des Bibles, des Nouveaux Testaments pour répandre la parole de Dieu. On paye le salaire des pasteurs, le salaire des ouvriers dans le Seigneur, on aide des missionnaires. Tout ça, c'est un but. Bien sûr, quand c'est détourné, parce que ça existe, hein, alors là, il faut régler le problème. Il faut dire, bien sûr. D'où l'importance d'être transparent dans ce domaine. Mais justement, pour être transparent, il faut en parler. Or, en France, on a tendance à cacher ça. Il faut dire, voilà, l'Église reçoit tant par mois. On en a fait l'Assemblée générale dimanche. Vous pouvez voir tous les chiffres et savoir ce que ça devient. Dernier principe et on va terminer. C'est un peu plus long. La générosité. Donc, premier principe d'utilisation, c'était la sagesse. Deuxième principe d'utilisation, la foi. Il faut avoir la foi quand on utilise son argent. Dernier, la générosité. Alors ça ressort beaucoup de la Bible. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Hein. L'oncle Picsou est pauvre. Celui qui donne est plus riche. Alors c'est curieux comme principe. On pourrait dire, mais c'est fou ça. Plus tu donnes, plus tu es riche. Et plus tu épargnes, moins tu es riche. Oui, parce que c'est un principe universel de Dieu. C'est que quand ça coule, quand c'est fluide, tout le monde y gagne. Voilà. Quand l'argent circule, tout le monde y gagne. Quand l'argent est bloqué dans l'épargne, hein, dans la banque, il n'y a que la banque qui y gagne. Mais l'économie, voilà. D'où l'importance d'investir. Alors, ça c'est... Et dans le futur, et puis dans créer des choses. Si on garde l'argent, on disait, oh là, moi j'ai peur d'une future crise, je vais accumuler, puis alors vous avez... des millions d'euros dans votre compte qui ne servent à rien, c'est du gâchis. Dieu vous a confié tout ça et vous l'avez enterré, on peut dire, hein, même s'il y a un intérêt à la banque. Il faut que ça fluctue, il faut que ça bouge, il faut que ça circule. Ouais. Paradis fiscaux, etc. Paradis. Oui, et voilà, et cet argent, au lieu d'être investi dans une entreprise, c'est pour ça que la bourse a un bon côté, parce qu'il y a des actions qui aident les entreprises. Mais la bourse a pris un effet pervers où ça ne va plus à l'entreprise, ça va à l'actionnaire. En fait. Tout est centré sur l'actionnaire au lieu d'être centré sur l'entreprise. Qui prennent tout. Le modèle idéal, on pourrait dire presque, hein, de l'entreprise, c'est que les salariés soient actionnaires. Voilà. Et ça fait longtemps qu'on y pense, mais il y a peu qui le font, qui ont le courage de le faire. Que les salariés aient les actions et soient responsables de leur entreprise, ce serait bien. En tout cas, épargner à l'excès n'est pas la volonté de Dieu. Être généreux, oui. La main de Dieu. De... ouais. Tout à fait. Ouais. Eh oui, c'est ça. Eh oui. Celui qui peut donner, c'est celui qui est riche. Hein. Tout à fait. Voilà. Il y a une richesse morale et spirituelle à donner. Voilà. C'est le verset ici. Hein. Ne vous amassez pas des trésors, hein, c'est bien, vous êtes dans le fil, sur la terre, mais amassez-vous dans le ciel. Hein. Voilà. Et donc, notre trésor, on ne doit pas avoir un compte en banque de 3 millions sur la terre. Ce n'est pas ça le but du chrétien. Le but du chrétien, c'est d'amasser dans le ciel. Comment amasser dans le ciel ? En utilisant notamment l'argent. C'est ce que, et là je fais juste ce que passer, mais dans Luc 16, il y a cette fameuse parabole de l'économe infidèle que beaucoup de chrétiens ont du mal à saisir, où l'économe infidèle est loué par Dieu ou par Jésus d'avoir été un peu, pas malhonnête, mais il est un peu bizarre dans sa façon. C'est pas son argent, c'est l'argent qu'il gère, mais il remet les dettes de moitié. Et il fait rentrer l'argent dans les caisses quand même, parce que plus personne ne payait, ne remboursait ses dettes. Et lui, il offre de diviser par deux les dettes. Et Dieu loue cet homme. Mais on se dit, mais c'est bizarre, cet homme, il n'a pas bien travaillé et il est loué. Mais en fait, c'est parce que cet homme fait circuler l'argent. Voilà. Et c'est ce principe, il fait circuler. Et Jésus conclut, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Les richesses injustes, voilà, il se fait des amis. Les richesses injustes, c'est les richesses matérielles. Ce n'est pas que c'est injuste, c'est que c'est matériel. Et donc, avec l'argent, on peut amasser pour le ciel en aidant des missionnaires, en aidant des missions, en se donnant pour le Seigneur. En utilisant... Exactement. Voilà. Tout ne se fait pas juste. Voilà. Ouais. Voilà l'équilibre. Il faut épargner un peu parce que, comme on avait dit, si on a un besoin, il faut avoir de l'épargne. Mais il faut aussi donner. Être généreux. Toujours la générosité. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc ça, c'est pour les chrétiens. On doit être généreux, on doit faire du bien. Matériellement, la bienfaisance est matérielle. C'est pas juste va te chauffer et je prierai pour toi. Le dernier verset, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Et ça, c'est dans l'église de Jérusalem, la première église. Ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Un indigent, c'est quelqu'un qui n'a pas de ressources propres. Ce n'est pas qu'il est pauvre seulement, c'est qu'il ne peut même pas survivre. Il n'a pas le nécessaire. Il n'y avait aucune personne dans cet état dans l'église. Pourquoi? Parce que les plus riches partageaient leurs richesses. Alors, il ne faut pas croire que c'était le communisme où on obligeait tout le monde à vendre tout et que c'était géré en communauté, ce n'était pas ça du tout. Hein. Mais les gens qui avaient trois champs, ils en vendaient un. Qui avaient trois maisons, ils en vendaient une. Mais vous rendez compte cet amour et ce souci des plus pauvres. Et c'est ça que j'aime dans les églises, enfin même dans notre église, dans les églises évangéliques, c'est qu'il n'y a pas ce sentiment « on est plus riche, on est plus pauvre ». Ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, en tout cas moi je ne le sens pas. On est tous frères, si quelqu'un a besoin, on va y aller. Et on n'est pas là à faire un peu de la classe sociale, les riches devant, les pauvres derrière, je ne sais pas, comme ça se faisait dans certaines églises. Et c'est vraiment le principe que Dieu veut nous enseigner. Exactement. Eh oui. Ils avaient pas, ils s'étaient pas installés sur la terre et quand ils ont été persécutés, exactement, ils avaient une liberté. Ouais. Ça c'est quelque chose. Hein. Voilà, eux avaient menti. Voilà la conclusion. Eh bien, c'est que nous avons tous plus ou moins d'argent. Et il faut appliquer ces principes, donc les trois principes de considération, l'argent n'est pas un dieu, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent nous est confié, trois principes d'utilisation, on doit utiliser l'argent avec sagesse, selon la volonté de Dieu, avec foi, je compte sur le Seigneur, et avec générosité. Il y a ce chrétien qui a donné un conseil très bien, il a dit, ne laissez pas l'argent dicter vos décisions. Par exemple, vous avez un projet spirituel, hein, conduit par Dieu, mais vous n'avez pas l'argent. Ne dites pas, oh, on ne fait rien parce qu'on n'a pas l'argent. Là, c'est l'argent qui dicte. Vous avez un projet et vous n'avez pas l'argent, dites, Seigneur, tu veux qu'on ait ce projet, vas-y, donne-nous l'argent qui nous manque. On ne se laisse pas arrêter. Et dans le sens inverse aussi, on a l'argent, je vais le dépenser, on va faire ci, ça. Non, ce n'est pas parce que j'ai de l'argent que je vais le jeter par les fenêtres, je vais demander à Dieu, comment dois-je utiliser mon argent, sagement, pour ta gloire, pour amasser un trésor dans le ciel, hein, pour aider les autres en difficulté. et que Dieu nous donne ce cœur de consacrer notre argent à Dieu, de consacrer notre porte-monnaie. Seigneur, prends mon porte-monnaie. Il est à toi. Aide-moi à l'utiliser. Merci, c'était plus long. Désolé d'avoir prolongé. Voilà, très bonne, oui, très bon livre. Et puis, il y a l'autre aussi de Adoul, non? Dieu et mes sous. Et la biographie de Le Tourneau, qui était un homme, un chef d'entreprise qui vivait selon ses principes, et son témoignage est édifiant. Ouais. Ouais. Et lui, il partageait ses biens. Enfin, c'était un...